Alors tu veux faire danseur?
And push. And turn and people down.
Qu'est-ce que ça te fait au juste lorsque tu danses?
Qu'est-ce que vous voulez dire par là, préciser?
Je suis heureuse et fière de faire partie de l'affiche de ce spectacle.
Transmettre au millimètre près les mouvements.
J'ai fait de la danse dans mon jeune temps.
Ça suffit, on se tourne vers le miroir, allez!
Eh bien bonjour, bonjour. Bienvenue à nouveau dans votre émission Manche sur. Aujourd'hui, le Brésil s'invite dans le microphone. Nous sommes aujourd'hui avec Dago Roberto, un chorégraphe très cher à nos oreilles. Bonjour Dago.
Bonjour, c'est un plaisir d'être là, merci.
Merci beaucoup. Alors je demanderai de te présenter comme tous mes invités, qui tu es et ce que tu veux dire de ce que tu es.
Alors, je suis Dago. Déjà, c'est un nom inventé.
Ok.
C'est un mot très cher pour moi aussi. Du coup, il y a cette question que c'est très cher pour moi, que c'est de l'invention de l'identité. Mm-hmm. À chaque fois, l'invention et la réinvention de la pratique, de mon rapport au monde, des relations à l'autre. Je pense que c'est une belle manière de me présenter. C'est que tout est mouvant, tout est changeant. Mm-hmm. Et j'aime bien cette intuition par rapport aux choses.
D'accord, oui. C'est un peu amorphe ou...
Je ne sais pas si c'est amorphe, mais c'est une forme qui se donne la permission de changer.
Ouais. Okay. Et par rapport au champ disciplinaire de la chorégraphie, tu te considères plutôt comme danseur, comme chorégraphe, comme mover, comme...
Mover, j'aime bien ce mot. J'aime bien ce mot. Je me présente souvent comme chorégraphe-performeur. J'aime bien l'ouverture que la performance, elle donne, à la manière dont on s'y met dans les réflexions sur la danse, par exemple. Du coup, j'aime bien les questions que la performance soulève. Je pense que ça fait du bien pour penser la danse, le plateau, le rapport à un public, un contexte de création scénique, de composition.
Quelque chose d'intéressant que Dago disait en dehors du microphone, c'est qu'il n'aimait pas les termes danse.
Oui, c'est vrai. Ah, tu racontes nos secrets là. Mais ouais, c'est assez polémique parce que je pense aussi qu'il faut revendiquer ce mot. Pour que le sens de ce mot puisse aussi bouger de forme par rapport à chaque contexte. Mais c'est vrai que le mot danse, il soulève tellement d'attentes qui invisibilisent des choses parfois qu'on met, des présences qu'on met sur un objet artistique. Et dès qu'on se met dans un contexte où les gens attendent la danse, il y a des choses qui disparaissent. Et ça, pour moi, c'est dommage et c'est un truc difficile à gérer. C'est un truc difficile aussi pour les institutions de gérer.
Oui.
Parce que, idéalement, pour moi, mon rêve, c'est qu'on arrive à un endroit de partage d'un objet sensible et qu'on n'a pas besoin de faire des différences, des catégories. C'est de la danse, c'est du théâtre, c'est de la performance, c'est de l'institut, tu vois. J'aime bien ce qui se passe quand on ne sait rien et on s'accroche à l'expérience qu'on a. Ce que touche et ce que traverse notre sensibilité. Mm-hmm. Et parfois, ces catégories, elles...
Je trouve que les catégories sont un peu obligatoires dans l'administration.
Oui.
Après, dans la création, c'est vrai qu'on a cette sensation de vouloir enlever ces murs cloisonnés.
Oui, mais j'imagine que dans le futur, dans le beau futur que j'imagine dans ma tête, il y a des manières de faire de l'administration qui vont être capables de bouger dans un territoire où les frontières ne sont pas si dures. Tu vois, mais c'est vrai qu'à ce moment, on ne sait pas encore comment le faire. Et on voit très souvent dans les institutions que c'est difficile de comment communiquer au public qu'est-ce qui va se passer si on ne leur donne pas un cadre.
Ouais. Comment tu commences à travailler? On avait...
Comme mon corps, comme mon nom, j'ai inventé mon parcours souvent. Du coup, c'est un parcours plein de courbes.
Il y a un début intéressant que tu m'avais raconté.
Déjà, c'était le dessin.
Voilà.
C'était la surface du papier. C'est comme ça que j'ai appris sur mon corps, d'abord, en fait. J'ai toujours dessiné des corps, par exemple, depuis que j'avais 5 ans, 4 ans. C'était toujours le corps. Jamais des animaux, jamais des paysages, jamais des architectures. C'était le corps. Et du coup, je me rappelle très bien de ce rapport au dessin, à force de vouloir dessiner l'épaule d'une figure qui s'appuie sur le sol, il fallait d'abord sentir mon propre corps, quelles sont les tensions dans mes muscles, les rapports entre mes articulations, la diagonale qui se forme aussi dans le corps dès que le poids n'est pas centré. Tu vois, du coup, c'est très spécial pour moi. Il y a aussi la question de la surface, comme on avait discuté aussi dans une autre opportunité. Et après, le dessin, il a ouvert plusieurs portes. Il m'accompagne jusqu'à aujourd'hui. Il y a de plus en plus le besoin de la présence dans l'instant. C'est fait nécessaire pour moi aussi. Du coup, c'était plus suffisant pour moi de finir un dessin, de l'exposer, de voir les gens se mettre en relation avec ce dessin. Mais après, il y avait quelque chose qui était déjà morte pour moi dans cette expérience. Et là, je découvre la performance, le théâtre performatif, où le corps, ce moment qui s'est presque lié à la survivance pour moi, d'être devant quelqu'un d'autre que dans ce moment précis qui commence et finit, et après on se sépare. Ça, pour moi, c'est incroyable.
Et on parlait aussi, là que tu parlais d'un dialogue entre le performeur et les spectateurs, tu parlais d'un effort mutuel. De ce que tu attends des personnes qui vont assister à tes représentations.
Ouais, déjà, il faut dire que mon travail est beaucoup basé sur l'image, imaginaire, imagination. Mais je crois beaucoup au pouvoir de la fiction pour vraiment mettre en place des choses qui ne peuvent pas être dites. Du coup, c'est toujours politique. Je dis ça parce que quand je pense à comment les spectateurs s'y mettent dans une expérience sensible et comment le performer s'y met dans une expérience sensible dans le moment du partage, je pense qu'il y a plusieurs enjeux politiques qui sont en train de se passer là. Je pense que le plateau, parfois, il reflète vraiment le monde. Le détail, il raconte sur un paysage entier. Dès qu'on bouge, le monde, il bouge avec. Mais il y a cette question de l'effort. C'est comment on fait un effort pour trouver le mi-chemin pour rencontrer l'autre. Dès qu'on voit une pièce, si je ne dois pas bouger, si j'ai une pièce qui arrive vers moi très facilement, il faut juste que je m'assoie et que je reçois. Là, je me méfie de quelque chose. Là, j'ai une expérience de la transformation qui me manque un peu. Il faut que j'aille en difficulté quelque part, un mystère. Quelque chose qui n'est pas dit dans la surface, mais qui me fait deviner la profondeur, tu vois. C'est ça que je dis. Comment aller à un spectacle de la même manière dont on peut rencontrer quelqu'un d'autre, rencontrer l'autre.
Oui.
Je parlais avec quelqu'un hier sur... je ne comprends pas encore qui n'a pas l'inconfort et la vulnérabilité quand il va rencontrer un autre corps.
Oui, parce qu'on bloque, on ferme certaines choses qui nous font peur, qui nous rendent justement, comme tu dis, un peu vulnérables.
Exactement. Si je suis complètement confortable quand je rencontre quelqu'un d'autre, c'est parce que je n'attends pas d'être transformé quand je te rencontre. Dès qu'on a cette possibilité de la transformation, il faut avoir de la vulnérabilité et de l'inconfort quelque part. Et je dis ça parce que socialement, je suis quelqu'un très timide, introspectif, maladroit. Ça me fait penser beaucoup. Qu'est-ce que ça fait rencontrer l'autre, Tu vois, c'est la question de mon travail aussi.
Il y a une idée centrale qui traverse ton travail, c'est le corps monstre, c'est le corps cuir. Pour toi, comment ça s'inscrit dans ta pensée et dans ta pratique?
Encore une fois, c'est lié à la manière dont je me suis présenté.
Oui.
C'est très lié à l'instant. C'est une question aussi compliquée de décrire parce que j'ai pas envie de mettre mon corps queer devant mon travail comme la première surface de lecture ou de contact dans l'expérience, dans le partage avec le public. Mais je fais confiance que mon corps queer, il est toujours là, il façonne mes possibilités de voir le monde et les manières dont je partage ce que je comprends du monde. Et du coup, c'est très lié à cet instant. C'est un corps qui a appris d'abord à se cacher. C'est ça mon expérience en tant qu'enfant queer.
Oui.
C'était, on apprend d'abord à cacher quelque chose parce qu'on voit très clairement la norme et on voit qu'on n'est pas là-dedans. Du coup, on commence à performer très tôt.
Oui, 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 tout à fait.
Et on apprend un peu cette habileté ou cette texture d'être changeant, d'être empathique. Qu'est-ce que cet espace a besoin de moi pour que je puisse protéger mon corps et survivre là-dedans?
Et tu parlais d'un terme en portugais du Brésil, non? Le via, je ne sais pas le prononcer.
Celui-là qu'on vient de dire?
Non, le viado.
Ah, viado, ouais. Ça, c'est lié à la dernière pièce que j'ai faite dans le cadre du Master Exerce.
Parce que Dago est un étudiant de Master Exerce.
Oui, oui, je suis en deuxième année maintenant. Et il faut traduire notre recherche dans la première année et aussi dans la deuxième, sous la forme d'une performance aussi.
Okay.
Et je travaillais autour d'une image qui est née à partir d'une carcasse d'un cerf.
Parce que viado, le terme viado...
Et au Brésil, on appelle le cerf viado, qui c'est le même nom qu'on donne au PD. C'est le même nom. Si je t'appelle viado, si j'appelle moi-même viado, je dis, ouais, je suis... oui, moi, je suis un gros PD, sou un belo d'un viado,
ouais.
Tu sais.
J'imagine que c'est par la morphologie du cerf, non? Pour le stylis, parce qu'il est stylisé, parce qu'il est fin, peut-être, non?
Oui, je pense qu'il y a plusieurs racines. Je pense qu'en fait, il y a quelque chose lié à la France, à la langue française, aux migrations et aux échanges avec la France aussi. La biche, par exemple, on a un autre mot pour PD qui s'appelle biche, par exemple. Il y a une déformation du mot, mais la racine, c'est la même, et c'est la même logique. Je pense qu'il y a quelque chose aussi à voir avec Bambi de Disney, avec la délicatesse d'un animal, avec les pattes fines, avec une légèreté du mouvement. Tu vois, je pense qu'il y a plusieurs imaginaires, plusieurs étoiles dans cette constellation homophobe, péjoratif.
On va sortir des buissons un instant. Pour vous laisser en compagnie d'une belle harmonie qui est d'aguache aussi pour vous. Vamos chamar o vento. Vamos chamar o vento. on revient à l'intérieur de cette notion de forêt avec notre chorégraphe invité dès le jour de cette semaine. On est en train de parler de cette notion qui transperce un peu nos vies d'enfants cuir et qui nous rend avec un regard particulier, avec des expériences plus ou moins douloureuses. Et je l'ai amené bien évidemment à notre émission parce que on en avait parlé et c'est quelque chose qui nous constitue. Mais passons maintenant à une grande référence qui est pour toi Clarice Lispector. Ouais. Et raconte-nous un peu comment nos auditeurs peut-être ne connaissent pas, ne l'ont pas encore lu. C'est une écrivaine brésilienne.
Oui.
Raconte-nous un peu comment...
Elle est naturalisée brésilienne, oui. Déjà, la littérature m'inspire beaucoup. C'est vraiment la bibliographie que je préfère, qui me traverse toujours et qui reste avec moi. Et Clarice, elle a une écriture qui s'est vraiment liée au rapport que j'ai avec l'image, par exemple. Elle choisit une sorte de situation, souvent, et elle bouge dans cette situation. Du coup, elle traverse 200 pages sans changer trop la situation. Mais la vie entière, elle se passe dans son écriture, sans que la situation ou la réalité, si tu veux, change. Et j'adore ce rapport. J'adore ce rapport qu'en fait, on ne partage pas la réalité. La réalité, c'est la fiction la plus grande qu'on a. Faire confiance qu'on partage les réalités, c'est perdre une opportunité politique vraiment dangereuse pour moi. Et ouais, Clarice, elle a un bouquin que j'adore, que je t'ai raconté, que c'est Agua Vive, c'est traduit en français. Et c'est un livre qui m'a accompagné dans la première pièce de danse que j'ai dansée. Du coup, c'est très spécial pour moi, il m'a traversé beaucoup, il m'a accompagné jusqu'aujourd'hui. C'est un livre qui s'appelle Agua Vive.
Ouais.
Je pense que c'est traduit comme ça en portugais, mais on pourrait traduire comme Eau vivante.
Vivante.
Et c'est une écriture vraiment dansée. C'est une suggestion
pourquoi
que je laisse.
Pourquoi tu dis ça? Je voulais te poser la question de pourquoi.
Parce que Clarice, elle habite l'écriture. Elle garde la texture de la pensée dans son écriture. Du coup, le changement est toujours une matérialité présente dans ce que tu lis. Tu vois encore qu'il y a tout le temps en train de faire attention à ce qui se passe dans l'instant. Et tu vois son écriture basculer d'un endroit à l'autre très facilement, mais d'une manière très physique, très organique, très anatomique. Tu vois, il y a une mécanique de mouvement dans son écriture qui n'est pas otage de la logique... du récit, par exemple, même si le récit, il est toujours là, mais elle a un compromis avec une autre chose. Et je pense que ça vient de sa chair, tu vois.
Et Clarice Lispector s'est inscrit dans le réalisme magique, un peu, non, comme Garcia Marquez ou comme certains écrivains qui ont...
Je pense qu'il y a un parenthèse, je peux percevoir un parenthèse, mais elle n'est pas classée vraiment là-dedans.
Mais le réalisme... C'est difficile à catégoriser, j'ai l'impression que les...
Oui, elle a un raisonnement poétique, ça c'est sûr, qui parfois mélange la fiction, il y a des situations surréelles aussi, mais je pense que son accroche, c'est pas vraiment là-dedans, comme on a plusieurs dans l'Amérique latine, par exemple, qui sont vraiment hyper reconnaissables dans le réalisme magique, fantastique, et que m'inspire beaucoup aussi.
Il me semble qu'il y a une statue, parce qu'elle a vécu dans son petit village, et son statue, elle est assise en train de regarder la mer. Mm-hmm. C'est au bord de la mer.
Ouais.
Je pense que c'est Clarice Lispector qui a cette statue. Donc,
tout à fait.
Vous êtes vraiment invité à vous approcher de cet univers magnifique de Clarice Lispector.
C'est un rôle d'une image déjà, cette statue.
Oui. On parle aussi de l'exercice du espoir pour toi. Pourquoi tu as invoqué ces mots si profonds dans nos échanges?
Ouais, c'est un mot qui ça prend 2 heures pour prononcer ce mot. Hein. Mais bon, on va essayer. Déjà parce que c'est un thème très fort pour moi en ce moment. Mm-hmm. Ma recherche cette année, elle a beaucoup bougé vers ce mot, le poids de ce mot, ou la manque de ce mot aussi.
Ah, le manque.
Le manque de ce mot. Déjà, je pense que c'est beaucoup lié à l'expérience du dessin aussi. Okay. Je te racontais dans l'occasion de notre conversation que souvent les gens me demandaient si j'avais déjà une image préalable quand je commence un dessin.
Ah oui, c'est vrai.
Et la réponse, c'est oui et non au même temps. Parce que j'ai la sensation d'une image, j'ai l'espoir d'une image. Mais ce qui arrive dans l'expérience, dans le faire, dans la fabrication du dessin, dans la relation avec le geste, la surface du papier, les erreurs, les surprises, ça c'est un apprentissage sur l'espoir. C'est sur l'adaptation, c'est sur prendre la surprise, l'inattendu, comme un cadeau de la vie, et se mettre là-dedans comme, avec joie, tu vois. Mm-hmm. Et je pense que la danse, particulièrement l'improvisation pour moi, le mouvement surtout,
oui,
a ce même rapport du geste dans mon corps. Je ressens le même voisinage, je me ressens sur la même table. Tu vois, c'est la même conversation. C'est ce rapport de « je me trompe tous les temps » et tous les temps, je reçois un cadeau nouveau que je ne m'attendais pas. Et ça nourrit, il nous apprend quelque chose sur l'espoir. Mm-hmm. Les choses ne se passent pas comme j'ai prévu, mais il y a toujours un cadeau, parfois encore mieux. Et c'est ça l'espoir, c'est que peut-être il y a quelque chose que je ne peux pas décrire. C'est plus grand que ma capacité de prévoir. Et c'est de plus en plus difficile de s'entraîner sur l'espoir, à mon avis, dans l'expérience de mon corps aujourd'hui, dans ce monde. Et j'essaie de faire un processus pour réfléchir à ça en ce moment. Ouais.
Ah, d'accord. Si, c'est comme une bataille qui bouge tout le temps, peut-être.
Tout le temps. Et ça, c'est le désespoir, parfois.
Ouais. Oui, pourquoi?
Oui, même si j'apprécie beaucoup le changement, mais je pense qu'il pourrait être capable d'habiter un corps qui change tous les temps. Il faut avoir un territoire. Il faut avoir un endroit pour rentrer. Soit dans soi-même, soit dans quelqu'un d'autre, soit dans une culture, dans un paysage, enfin, peu importe. Mais dès qu'on perd ce sens de territoire, d'un endroit où on est enraciné, même si on est enraciné dans l'océan, dans un sol qui n'est pas fixe, mais si on perd ce rapport, là je pense que c'est difficile.
Bah ça fait penser beaucoup pour nos auditeurs qui ont suivi l'émission. Le chorégraphe William Petit, qui parlait, que tu connais bien, qui parlait justement de ce corps nomade, parce que lui, il a un discours un peu dans une autre direction, que c'est justement ne pas avoir ces lieux où rentrer. Ça contraste beaucoup avec ce que tu dis.
Oui, exactement. Et moi, quand je l'y écoutais, je me suis dit,
parce que c'est dur d'être nomade.
Oui, c'est dur d'être nomade. Particulièrement parce qu'on a des expériences très différentes par rapport à qu'est-ce qui fait maison, qu'est-ce qui fait territoire. Du coup, il faut porter un territoire dans la poche, à mon avis.
Ah,
du coup,
c'est une idée trop belle, dans la poche.
On n'a pas comment construire d'autres choses, on n'a pas comment changer. On s'y perd, on se dilue, on disparaît, tu vois. Et moi, je pense que c'est important pour mon corps et les corps que moi, je représente, d'être concret, d'être chair, d'être os, de ne pas être un concept flou, tout simplement, tu vois. Pour moi, c'est quand la théorie queer, par exemple, elle devient dangereuse.
Oui,
elle devient très blanche.
Abstraite.
Oui, quand elle devient désincarnée, tu vois.
Désincarnée.
Oui, pour moi, je crois en théorie queer qui est politique, mais elle est aussi économique, géopolitique. Il y a des différences là-dedans qui pour moi sont très importantes. pour penser comment se mettre là-dedans, dans ce territoire tellement bougeant.
Déconstruit, oui. Ouais, c'est, il ne faut pas tout déconstruire non plus.
Ouais. Être, il y a des corps qui ont besoin d'avoir.
Pour ceux qui ne connaissent pas la théorie queer, c'est notamment Judith Butler qui a provoqué énormément de textes qui nous ont permis de nous repenser, de penser notre genre, de penser comment nous sommes constitués tous. Et donc ça a influencé énormément des personnes à différentes générations, bien évidemment. Et ça aussi, c'est une littérature beaucoup technique. C'est très technique, il faut y aller avec douceur. mais c'est vrai que ça nous a tous transpercés. Et je suis vraiment étonné de cette rencontre avec Dago, parce que ça nous a permis à nous deux de faire connaissance, mais aussi de poser énormément de questions qu'on a chacun dans nos pratiques et dans cet univers qui nous accueille aussi, pour justement avancer ensemble sur des questions qui sont complètement sociétales et aussi très politiques. Donc c'est toujours un plaisir de rencontrer des personnes comme toi. Je dirais qu'il y a une dernière idée qui est intéressante, c'est les amulettes. Pour toi, il y a différents types d'amulettes, non, qui t'accompagnent dans justement cette traversée de continents, parce qu'on partage ça aussi, on traverse l'Atlantique, donc 6800 km de traversée. Et dans 2 minutes qui nous restent, dis-nous
tes amulettes. Tu me demandes trop là, je me perds dans les mots. Mais oui, déjà, j'envisage ma pratique de plus en plus comme en sorte des maisons, temples, jardins. Et c'est devenu un besoin d'essayer d'identifier ma pratique comme ça. Qu'est-ce qui fait le processus? Comment je crée ce territoire? Comment je mets ma maison, mon temple, mon jardin dans ma poche pour continuer à être capable d'avoir un corps qui se transforme, une identité qui se met toujours en question. Et les amulettes sont mes pièces, sont les manières dont je change mon rapport à mon anatomie, comment je invente mon anatomie, des objets que je fabrique pour m'accompagner dans ma maison en soi, que je vois et qui me rappellent des choses qu'il faut se rappeler chaque jour. Tu vois, du coup, c'est un rapport spirituel, artistique, poétique, domestique, architectural.
Beaucoup de choses dedans. Ouais. Nos chers auditeurs, le temps en radio est compté. Je suis ravi de vous avoir une semaine de plus. Restez avec nous, que Dago restera avec nous une semaine de plus pour nous raconter sa conception chorégraphique, notamment sa notation chorégraphique. Soyez heureux et bienvenue dans Divergence chaque semaine.
Alors tu veux faire danseur?
And push and turn and table dance.
Qu'est-ce que ça te fait au juste lorsque tu danses?
Qu'est-ce que vous voulez dire par là, préciser?
Je suis heureuse et fière de faire partie de l'affiche de ce spectacle.
Transmettre au millimètre près les mouvements.
J'ai fait de la danse dans mon jeune temps.
Ça suffit, on se tourne vers le miroir, allez.